Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Oui, oui, les capitalistes exercent une dictature absolue sur les entreprises et sur toute l'économie. Ils dirigent les entreprises au nom du fait qu'ils y ont apporté les capitaux, que c'est leur propriété. Ils s'arrogent ainsi le droit de faire ce qu'ils veulent de leur entreprise et des travailleurs qui vont avec. Ils décident qui travaillera, qui ne travaillera pas, qui touchera un salaire, qui n'en touchera pas, qui sera embauché à temps plein, qui à temps partiel. Ils peuvent fermer des usines, changer d'activité, délocaliser ou tout simplement mettre la clé sous la porte pour faire fructifier plus grassement leurs capitaux dans la spéculation. Mais la dictature des capitalistes ne s'exerce pas seulement sur les entreprises et sur l'économie, elle pèse sur toute la vie sociale. Où que l'on porte son regard, quoi que l'on fasse, c'est le même constat. La course au profit est dangereuse et criminelle. Elle l'est dans les transports, elle l'est dans l'agroalimentaire, dans la santé, dans le domaine de l'énergie et du nucléaire, domaine complexe et dangereux, où il faudrait multiplier les contrôles et les précautions. La rentabilité pousse aussi aux économies criminelles et aux catastrophes. Le système capitaliste érige le profit en Dieu tout-puissant. Les dirigeants des grands groupes, des PDG ou traders, tous sont dressés et sélectionnés pour faire de la rentabilité leur seule religion. Ils sont formés pour faire des coûts financiers, surtout, sur l'exploitation des travailleurs, bien sûr, mais aussi sur les ressources de la planète, sur les monnaies, sur les impôts, sur les dettes. Leur titre de gloire, cost killer, c'est-à-dire licencieur. S'il est plus rentable de construire des suites d'hôtels à des milliers d'euros que des logements pour tous, va pour le luxe. S'il est plus profitable de vendre des armes que de faire fonctionner des hôpitaux, va pour le commerce des armes, quitte à déclencher de nouvelles guerres. S'il est plus rentable de spéculer que d'investir dans la production, va pour la spéculation, quitte à déclencher famine et crise financière. Tout le système capitaliste pousse à l'irresponsabilité vis-à-vis de la société. Il fait peser un danger permanent sur nous tous et sur la planète entière. Le contrôle des travailleurs sur les entreprises et sur l'économie doit être une étape dans la lutte des exploités. Car la seule façon d'empêcher de nuire les dirigeants de ce système fou, ce sera de les soumettre au contrôle de la société afin de leur ôter le pouvoir dictatorial qu'ils exercent sur l'économie et sur la vie sociale. Il ne s'agira pas de les remplacer pour gérer l'économie capitaliste autrement et faire en sorte qu'enfin, elle serve les intérêts collectifs. Elle ne le peut pas. Le capitalisme est et restera un système fondamentalement, génétiquement, inégalitaire, inhumain et anarchique, parce que basé sur l'exploitation et sur la propriété privée des grands moyens de production. La classe ouvrière devra prendre le pouvoir pour changer les bases mêmes de cette économie, pour l'orienter, non pas pour rapporter les profits pour une minorité, mais pour qu'elle réponde aux besoins des hommes. La classe ouvrière est aujourd'hui diverse, comme le sont les entreprises, comme l'est l'ensemble de l'économie. Les ouvriers sur chaîne de fabrication, les caissières de supermarchés, les employés de banque, les ingénieurs et les techniciens, les cheminots, les aides-soignantes, les enseignants ont en commun de n'avoir que leur salaire pour vivre. Mais les travailleurs qui sont réduits au chômage ou qui sont à la retraite appartiennent également à la classe ouvrière. Malgré la diversité de leurs métiers et de leurs conditions de travail, ils ont en commun d'être exploités, ou du moins de contribuer par leur activité au fonctionnement de cette société qui permet à une mince couche de parasites bourgeois de s'approprier une large part des produits du travail collectif. Et ils ont en commun de faire marcher collectivement l'économie, mais sans avoir la moindre part dans l'orientation de celle-ci. Eh bien, c'est précisément cette présence dans tous les rouages de l'économie qui leur donne la capacité collective, non seulement d'exproprier la bourgeoisie, les propriétaires et les actionnaires des entreprises, mais de fonder les bases d'une économie, d'une organisation économique nouvelle où la propriété des usines, des banques, des groupes de la distribution ne serait plus privée, mais collective. Une organisation économique sans exploitation, sans course au profit, sans concurrence, gérée démocratiquement par l'ensemble de la collectivité. Oui, face à la faillite du capitalisme, le sort de l'humanité est entre les mains de la classe ouvrière. Depuis que le capitalisme existe, les travailleurs ont toujours dû se battre contre l'exploitation. L'histoire, expliquait Marx, est l'histoire de la lutte de classe et l'histoire du capitalisme est celle de la lutte entre les deux classes opposées que forment la bourgeoisie et le prolétariat. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que les premiers ouvriers de la révolution industrielle se révoltent en Angleterre. Pour commencer, ils s'en sont pris aux machines qui les enchaînaient à des cadences et des rythmes de travail insupportables et qui finissaient par leur prendre leur travail. Puis ils se sont tournés contre la bourgeoisie elle-même. Ils se sont battus pour diminuer le temps de travail, pour un salaire digne, pour avoir des assurances face à l'accident, à la maladie, au chômage et à la retraite, pour avoir des congés. Rien de ce qu'ils ont obtenu pour améliorer leurs conditions d'existence n'a été offert par la bourgeoisie. Les travailleurs ont dû tout lui arracher en luttant. Mais c'est à l'honneur du mouvement ouvrier conscient que d'avoir aussi défendu des idées bien plus générales, celles de la critique radicale de la société capitaliste, de son caractère incontrôlable, anachronique. C'est à l'honneur du mouvement ouvrier conscient d'avoir posé la seule question qui vaille pour les exploiter, à savoir qui doit diriger l'économie et la société, la bourgeoisie ou le prolétariat ? Et d'avoir répondu et propagé au sein de la classe ouvrière l'idée que c'était aux travailleurs eux-mêmes de diriger. C'est à l'honneur du mouvement ouvrier que d'avoir repris à son compte les idées de Marx et d'Engels. Marx et Engels furent les premiers à mettre en lumière les ressorts de l'exploitation capitaliste. Leur condamnation définitive du capitalisme n'était pas seulement fondée sur une indignation morale, mais sur une analyse du fonctionnement du capitalisme. Marx avec Engels ont démontré en quoi le capitalisme ne pouvait pas être l'avenir de l'humanité après avoir découvert le mécanisme de l'exploitation, le vol de la plus-value, après avoir analysé les contradictions internes du capitalisme et la dynamique de son évolution. Ils n'ont pas défendu la perspective communiste par idéalisme, ils en ont démontré sa nécessité. Ils ont démontré que le capitalisme portait les prémices du communisme en poussant à la concentration et à l'internationalisation. Qui d'autre que les capitalistes avaient rassemblé dans les usines des bataillons de bras transformés en prolétaires ? Qui d'autre que les capitalistes avaient développé la production à grande échelle, brisant le commerce et l'artisanat parcellaire ? Qui d'autre que les capitalistes avaient de fait collectivisé la façon de produire ? C'est sur la base de la propriété privée et poussée en permanence par la recherche du profit privé que les capitalistes ont socialisé la production, qu'ils ont rendu les processus de production interdépendants à l'échelle régionale, nationale et aujourd'hui mondiale. C'est le capitalisme lui-même qui a créé les bases économiques d'une organisation collective de la production. Mais en même temps qu'œuvrent ces puissantes forces d'unification, la direction de l'économie reste entre les mains de quelques-uns, les propriétaires privés de capitaux. Et cette propriété privée des capitaux qui empêche toute gestion collective de production, toute coordination, toute organisation consciente de l'économie. Marx, le premier, a révélé cette contradiction fondamentale du capitalisme qui en fait un système ingouvernable. Il a démontré que les crises économiques, nombreuses déjà à son époque, ne sont pas des accidents, mais la seule façon qu'a l'économie pour se réguler, la seule façon d'équilibrer la production et la consommation en adaptant après coup la production à la consommation solvable. L'apport de Marx a été de décrire les tendances naturelles du capitalisme et d'en dégager l'aboutissement ultime, la classe ouvrière. La classe exploitée fera accoucher la société capitaliste d'une nouvelle société fondée sur la propriété collective et la gestion collective de l'économie. utopie, disent depuis toujours les détracteurs des idées communistes. Mais cela n'est une utopie que tant que la classe sociale susceptible de la réaliser ne s'en empare pas. Et s'il s'agit d'une utopie, c'est une utopie féconde, du genre de celles qui font avancer l'humanité, comme la conquête spatiale, qui a débouché sur de grands progrès scientifiques et techniques. Parce que cette perspective communiste, eh bien, elle est sortie du domaine de l'utopie. Et elle est sortie de ce domaine de l'utopie parce que des générations de prolétaires s'en sont emparées et l'ont transformée en but politique, en un objectif de combat. Un objectif de combat enthousiasmant, car il ne se borne pas à la défense des exploités, mais à leur émancipation et à l'émancipation de toute la société du joug de l'argent. Ce but reste toujours à atteindre et continuer ce combat, prendre le relais des générations qui nous ont précédés, c'est notre raison d'être. En épousant les idées communistes, celles de Marx et d'Engels, et en constituant des partis dans l'idée que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, les travailleurs se sont érigés en force politique. Ils ont appris à s'organiser et à se diriger. Ils l'ont fait à travers de petites et de grandes luttes, dans des affrontements avec la bourgeoisie et avec son État, dans des grèves, dans des manifestations, mais aussi au travers de batailles politiques, y compris électorales. Ils se sont donné une multitude de formes d'organisation, des mutuelles, des syndicats aux partis politiques, jusqu'aux organisations militaires, piquets de grève et milices ouvrières. Ils ont eu des succès, mais bien plus encore des défaites. Mais une expérience formidable s'est accumulée au fil du temps. Une des plus belles réussites du mouvement ouvrier fut le Parti social-démocrate allemand, qui fut, au tournant des 19 et 20e siècles, le plus puissant parti ouvrier de son époque, la colonne vertébrale de l'Internationale socialiste. Le Parti social-démocrate allemand a organisé dans ses rangs des dizaines de milliers de militants ouvriers, a envoyé au Parlement plus d'une centaine de députés qui se revendiquaient de la révolution sociale. Il a édité des dizaines de journaux, a construit et animé la plupart des syndicats d'Allemagne, mais aussi des coopératives et de multiples associations. Il a influencé des millions de travailleurs. Pas plus en Allemagne que dans les autres pays, l'idée que le prolétariat formait une classe avec des intérêts politiques distincts de ceux des autres classes n'allait de soi. L'idée que la classe ouvrière devait postuler à prendre la direction de la société non plus. Les facteurs de division ne manquaient pas au sein du jeune prolétariat allemand. Les particularismes de toutes sortes, le nationalisme, les divisions religieuses étaient répandus. Pour combattre ces préjugés et forger une conscience de classe, les militants sociaux-démocrates firent une propagande inlassable, bien que leur parti fût interdit pendant 12 ans, que les militants connus étaient bannis de leur ville, privés de leur gagne-pain. Pendant des années, ils furent intimidés, licenciés, traqués à l'intérieur des entreprises par les chefs, à l'extérieur par la police. Mais ils continuèrent et ils utilisèrent toutes les possibilités que leur donnaient les élections et le suffrage universel pour continuer leur agitation politique au cœur de chaque circonscription électorale. Même si, pendant des années, les députés socialistes firent des allers-retours entre le Parlement et la prison. C'est ainsi que le Parti ouvrier allemand réussit à regrouper et à unifier les travailleurs derrière leurs objectifs de classe et qu'ils pesèrent d'un poids croissant sur la vie politique du pays, imposant dans une monarchie autoritaire bien des changements favorables aux travailleurs. En Russie, c'est dans la révolution elle-même, plus exactement dans la succession des révolutions de 1905 puis de 1917, que les travailleurs se sont érigés en force politique. Une force politique ô combien puissante, puisqu'elle fut capable de prendre le pouvoir et de le garder contre toutes les forces bourgeoises européennes coalisées. Mais la classe ouvrière russe n'a pu le faire qu'en acquérant un haut niveau de conscience, insufflé par le parti bolchévique, qui a su orienter les travailleurs dans l'avalanche des événements, qui a su démasquer les mensonges, le double jeu des ennemis de la Révolution, et qui a milité pour que les travailleurs prennent le pouvoir eux-mêmes. Sans ce haut niveau de conscience, sans le parti révolutionnaire, la classe ouvrière n'aurait pu se hisser à la hauteur de cette tâche historique. Après la révolution de février 1917, où la bourgeoisie se retrouva au pouvoir en Russie, il a fallu 8 mois pour que les travailleurs comprennent la nécessité de prendre eux-mêmes le pouvoir. 8 mois pendant lesquels les bolcheviks ont été à contre-courant avant de devenir majoritaires dans les soviets. Et avant ces grands événements de 1917, il y a eu les années noires, des années où les rares militants ne parvenaient pas à faire pénétrer leurs idées dans la classe ouvrière. Années où ils étaient isolés et traqués dans l'immensité russe, alors que la direction du parti était elle-même exilée à des milliers de kilomètres. Mais ce sont ces militants qui ont préservé l'existence du courant communiste révolutionnaire en Russie. Et lorsque la révolution a éclaté en pleine guerre, les mêmes travailleurs qui n'avaient pas répondu aux appels des révolutionnaires à les rejoindre se sont emparés de leurs idées pour construire le pouvoir ouvrier, le seul de l'histoire après la brève existence de la Commune de Paris en 1871. S'il n'y eut rien de tel en Allemagne, malgré le formidable développement du mouvement ouvrier que j'ai décrit, c'est que la direction du Parti socialiste allemand a failli en 1914, comme la plupart des autres partis sociaux-démocrates de l'époque. La direction du Parti allemand s'est montrée incapable de s'opposer à la guerre. Et puis, elle a pris fait et cause pour sa bourgeoisie. L'humanité allait payer de 18 millions de morts et de destructions d'avoir laissé les bourgeoisies rivales entraîner les travailleurs dans une guerre où ils n'avaient rien à gagner. En Russie, le prolétariat victorieux, après avoir réalisé des changements sociaux formidables, n'a réussi à entraîner derrière lui qu'une partie des travailleurs des autres pays. La révolution ouvrière a été vaincue ou trahie en Allemagne, en Hongrie, en Finlande. Mais l'ordre bourgeois n'a jamais été aussi profondément contesté par la classe ouvrière que dans ces années qui ont suivi 1917. À côté des pays en révolution, c'était pour ainsi dire partout, des années d'activité intense de la classe ouvrière, marquées par des grèves, par des mutineries. Partout où la classe ouvrière existait un tant soit peu, ce fut l'éclosion de partis communistes, jusque dans ces pays arabes où l'on observe aujourd'hui le manque cruel de partis révolutionnaires. Mais la bourgeoisie internationale est sortie victorieuse de cette période d'affrontement, la Russie soviétique mise à part. Mais c'est justement cet isolement de la révolution russe qui a conduit à la dégénérescence de l'État créé par le prolétariat. Une dégénérescence qui a donné naissance à une couche sociale oppressive en Union soviétique même, la bureaucratie. La dégénérescence de l'État soviétique eut des conséquences en dehors de l'URSS. Un peu partout dans le monde, elle a conduit à la transformation des partis communistes en partis staliniens, qui, de force révolutionnaire, sont devenus des agents de préservation de l'ordre social capitaliste à l'échelle du monde. Et l'ordre bourgeois préservé a enfanté, pendant la grande crise économique des années 1930, la barbarie nazie, puis la Seconde Guerre mondiale. L'humanité a payé, cette fois, le maintien de l'ordre bourgeois de 50 millions de morts et de destructions plus gigantesques encore que pendant la Première Guerre mondiale. Malgré ces deux échecs graves, la trahison de la direction socialiste avant la guerre de 1914, puis la transformation des partis communistes en partis staliniens, le mouvement ouvrier, ses combats, ses victoires comme ses échecs, ont marqué l'histoire de la première moitié du XXe siècle et, dans une certaine mesure, par l'intermédiaire de l'Union soviétique et des partis staliniens, la deuxième partie du XXe siècle aussi. Il a marqué la politique intérieure d'un grand nombre de pays. Par l'intermédiaire de l'Union soviétique et de ce qui restait dans ce pays des conquêtes de la Révolution de 1917, il a marqué toute la politique internationale, avec d'innombrables sous-produits, en particulier dans de nombreux pays pauvres, au travers des mouvements d'émancipation nationale. Mais les capitulations, les reniements, la faillite des grands partis ouvriers, ceux du courant social-démocrate puis ceux du courant stalinien, qui avaient regroupé les masses travailleuses, ont pesé d'un poids considérable sur la classe ouvrière et ils continuent à peser aujourd'hui encore. Ils ont failli, tour à tour, à des moments décisifs. Cela a joué un rôle majeur dans le fait que, malgré une succession de crises qui ont exprimé l'impasse du capitalisme, notamment lors de la grande crise sociale des années 30, la classe ouvrière n'a pas poussé son combat jusqu'à son aboutissement ultime, c'est-à-dire jusqu'au renversement du pouvoir de la bourgeoisie à l'échelle du monde. Mais la classe ouvrière n'a que 150 ans d'âge, et dans bien des pays, elle est plus jeune encore. Prendre le pouvoir à l'échelle internationale et s'atteler à la tâche de transformer de fond en comble la société est une tâche gigantesque. Il s'agit d'un combat pour changer le monde de base. Comme dans tout combat, il y a des capitulations et des trahisons. Elles peuvent retarder le cours de l'histoire, mais elles ne peuvent pas l'arrêter. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la société capitaliste ne s'est pas améliorée. Le capitalisme est né et a grandi en suant le sang et la boue par tous les pores, disait Marx. Avec la mise en esclavage de millions de Marx, de femmes et d'hommes, ça serait bien, de millions de femmes et d'hommes arrachés de leur continent, l'Afrique, avec l'exploitation des enfants, l'expropriation brutale des paysans. Oui, le capitalisme s'est développé par l'oppression, le pillage, la destruction. Mais qui oserait dire que ce n'est plus le cas aujourd'hui? L'Afrique ne continue-t-elle pas d'être vidée de son sang? Les enfants qui travaillent dans les usines textiles de Dhaka au Bangladesh pour imprimer les t-shirts travaillent-ils dans des ateliers moins sordides que ceux de Manchester dans les années 1850? Le pillage des matières premières, la destruction de l'environnement, est-elle moins grave? Aujourd'hui, la société capitaliste est plus inégalitaire, plus folle encore qu'elle l'était au XIXe et au XXe siècle. Fourier, un des socialistes utopiques des premières années du XIXe siècle, voulait, je le cite, « dévoiler les intrigues de la bourse et des courtiers ». Que dirait-il aujourd'hui s'il voyait les ravages planétaires provoqués par la financiarisation? Que dirait Fourier en voyant la condition des femmes, éternelles esclaves, dans bien des régions du monde et relégué dans bien des pays riches, lui qui fut le premier à dire que le degré d'avancement d'une société se mesure au degré d'émancipation des femmes. Oui, le décalage entre les possibilités actuelles de l'économie et ce que les maîtres de l'économie en font est considérable, de même que le décalage entre le développement des techniques et l'arriération morale et culturelle d'une immense partie de la société. C'est un gâchis innommable. L'économie capitaliste, même dans ses périodes de croissance, n'a résolu aucun de ses problèmes, à commencer par celui du sous-développement. On en est à dépenser des millions pour élever des barbelés et transformer l'Europe en une forteresse, pour intercepter les bateaux de clandestins en Méditerranée, sans pour autant empêcher les milliers de pauvres d'Érythrée, de Somalie ou de Syrie de tenter leur chance sur des bateaux de fortune. 300 personnes l'ont payé de leur vie, noyées à proximité de Lampedusa la semaine dernière, parce que voilà, enfermer les plus pauvres dans leur misère, c'est tout ce dont est capable cette société capitaliste. Quant aux crises, elles sont même encore plus fréquentes, encore plus profondes et plus graves qu'au début du capitalisme. Ce n'est pas que les dirigeants dévoués au capitalisme n'ont pas tiré les leçons des crises précédentes, ils les ont tirées. Ils savent tout des mécanismes de la crise, de ses conséquences. Mais ils ne peuvent pas les empêcher, car les crises sont incontournables, parce qu'elles sont dans la nature même du capitalisme. Cela fait partie des aberrations de cette économie, que de ne pouvoir éviter ces périodes de catastrophes économiques, ces moments de chaos et de destruction de richesses et de recul pour toute la société. Le capitalisme ne parvient à sortir de la crise que par l'intermédiaire des États. Les États prélèvent sur les populations ce que les mécanismes habituels de l'exploitation ne permettent pas de faire, pour les transférer dans un deuxième temps aux capitalistes. Cela n'est pas nouveau. Depuis les débuts du capitalisme, les commandes de l'État ont souvent joué un rôle pour enclencher la reprise et surtout pour préserver les profits de la classe capitaliste. Et dans ces commandes d'État, les commandes militaires, les dépenses d'armement ont joué un rôle de plus en plus important. Lors de la dernière grande crise de l'économie capitaliste, celle qui avait commencé en 1929, le capitalisme ne s'en était sorti en fin de compte que par les commandes d'armement de la Deuxième Guerre mondiale. En 2008, le système capitaliste a failli sombrer dans une crise bancaire généralisée. Et ce n'est pas seulement nous, les révolutionnaires communistes, qui le disons. La bourgeoisie n'a sauvé ses profits et son système bancaire que grâce aux injections massives d'argent par les États, sans rien résoudre, en ne faisant que reporter le problème et la menace d'une crise financière à une échelle encore plus grande. Le développement cancéreux de la finance et de la spéculation est aujourd'hui la manifestation la plus éclatante du parasitisme de la classe capitaliste. Derrière cet univers de banquiers, de fonds spéculatifs, de traders fous, il y a en réalité toute la grande bourgeoisie. Car l'argent avec lequel spéculent ces groupes financiers vient de cette grande bourgeoisie. Derrière les grandes phrases sur la modernisation de l'économie, sur la compétitivité dont a parlé Jean-Pierre, il y a ce parasitisme basé sur l'aggravation de l'exploitation de la classe ouvrière. On rend les conditions d'existence des travailleurs de plus en plus dures, avec pour seule finalité de drainer une part croissante du profit vers la spéculation financière, pour que les grandes dynasties bourgeoises augmentent leur fortune, pour que les gros actionnaires touchent des dividendes en hausse malgré la crise. On empoisonne littéralement la vie économique. Alors oui, renverser le capitalisme est une tâche immense, mais vivre dans cette société est de plus en plus insupportable pour le plus grand nombre, et c'est ce qui fait que le capitalisme est une société condamnée. Malgré les trahisons successives qu'a connues le mouvement ouvrier, et malgré la quasi-disparition des partis révolutionnaires et le recul de la conscience de classe, l'histoire ne s'est pas arrêtée. La classe ouvrière n'a rien perdu de sa force potentielle à l'échelle du monde, ni de sa combativité. Et le capitalisme n'a surmonté aucune de ses contradictions. Il n'a fait que pousser plus loin les conditions matérielles de sa propre disparition. Les forces que Marx a mises en lumière dans les années 1850 sont toujours à l'œuvre. Oui, aujourd'hui, la production de richesses est déjà collective. Il n'existe pas sur la planète un seul site de production, que ce soit une activité minière, une usine de transformation alimentaire ou produisant des voitures, des ordinateurs ou n'importe quoi d'autre, dont la bonne marche ne dépende pas de l'activité coordonnée d'une multitude de travailleurs sur plusieurs continents. Il suffit de regarder autour de soi, dans son logement ou dans son caddie de supermarché, pour voir à quel point ce qui est nécessaire à notre vie de tous les jours inclut des matières premières venues des quatre coins du monde, transformées dans de nombreuses usines et commercialisées au travers de circuits complexes. Et si l'on songe aussi à l'énergie et au transport nécessaire à la production, on ne peut que se convaincre que l'économie est déjà profondément socialisée et internationalisée. La bourgeoisie peut s'accrocher à sa propriété privée et se battre pour la gestion individuelle et égoïste de ses immenses moyens de production, mais toutes les forces de son propre système poussent pour les renverser. Les forces qui taraudent le capitalisme n'ont pas cessé de croître. Plus le capitalisme dure, plus il se rapproche de sa fin. Le capitalisme ne peut pas l'emporter. Il creuse sa propre tombe et a créé, comme disait Marx, ses propres fossoyeurs. Parce que le prolétariat ne fait que grandir à l'échelle de la planète et il se bat. Il n'y a pas une année sans qu'il n'y ait de lutte, de grandes grèves dans un coin ou dans un autre. Oui, le prolétariat se développe. Ce n'est pas le sentiment et l'impression qu'en ont les travailleurs dans les pays riches, parce qu'il n'est question que de fermeture d'usines et de licenciements. Mais un chômeur est un travailleur privé d'emploi, mais un travailleur quand même. Et surtout, dans tous les pays pauvres de la planète. Dans tous les pays pauvres de la planète où le capitalisme pénètre, il transforme les paysans en prolétaires. Chaque nouvelle usine créée dans un pays pauvre, de la Côte d'Ivoire au Bangladesh et à une toute autre échelle, du Brésil à la Chine, en passant par l'Inde, suscite un nouveau contingent de prolétaires. Et même là où le capital impérialiste pénètre en prédateur, en ne créant pas de nouvelles usines, mais en pillant les richesses minières ou agricoles, il renforce le prolétariat. Parce que les richesses minières, il faut les extraire, il faut les transporter. Il faut des mineurs, des camionneurs, des dockers. Les plantations d'EVA ou de palmiers à huile ne donneraient rien sans une armada d'ouvriers agricoles. Alors oui, les travailleurs n'ont jamais été aussi nombreux. Et à la différence des paysans pauvres et sans terre de par le monde, qui aspirent à posséder individuellement leur propre champ, et on les comprend, la propriété individuelle des moyens de production n'a aucun sens pour la classe ouvrière. Il ne viendrait à aucun ouvrier de dire « cette machine est la mienne », à aucun employé de revendiquer la propriété de son ordinateur, des fichiers informatiques qui vont avec. Il ne viendrait à l'esprit d'aucun travailleur de découper les usines ou les entreprises en petits lots individuels. Toutes ces raisons font que la classe ouvrière constitue la classe la plus réceptive aux idées collectivistes, aux idées communistes. Et c'est logiquement que c'est en son sein que le courant communiste s'est développé et qu'il se développera à nouveau. Nous sommes peut-être à contre-courant de l'esprit général, mais les forces qui poussent vers le socialisme au sein même du capitalisme n'ont jamais été aussi puissantes. Seulement, la bourgeoisie ne mourra pas de sa belle mort, il faudra la renverser. Pour que la société capitaliste accouche du communisme, il faut l'intervention consciente des exploités qui se battent pour prendre le pouvoir. D'un côté, le système capitaliste est de plus en plus parasitaire. De l'autre, la classe ouvrière est numériquement puissante, cultivée, concentrée, capable plus que jamais de prendre en main les rênes de l'économie. Mais il y a un décalage immense entre les capacités objectives, le rôle historique des travailleurs et leur état d'esprit. Avec le reflux du mouvement ouvrier organisé, les travailleurs ont perdu la conscience de leur force et la confiance en leur classe et en leurs idées. Les idées de la bourgeoisie ont remplacé celles des partis ouvriers, y compris dans les rangs des travailleurs. Il n'y a pas à s'en étonner, la bourgeoisie domine sur le plan matériel, mais elle imbibe aussi de ses propres valeurs toute la société. Elle répand l'individualisme, le chacun pour soi, la compétition. Que la bourgeoisie fasse sa propagande, c'est dans l'ordre des choses. Mais dans le passé, il y avait des partis ouvriers pour prendre le contre-pied de cela. Aujourd'hui, ces mêmes partis font l'inverse. En justifiant leur participation gouvernementale, en justifiant la politique anti-ouvrière qu'ils y menaient, le Parti socialiste et le Parti communiste ont distillé au sein de la classe ouvrière les valeurs et les idées de la bourgeoisie. À cela s'ajoute la politique tout aussi démobilisatrice des directions nationales des syndicats. Au point qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs rebaptisés « classe moyenne » considèrent que l'économie doit être compétitive et qu'en fin de compte, l'intérêt des exploités, c'est que les exploiteurs s'enrichissent. Au point aussi que les idées nationalistes et protectionnistes étrangères au mouvement ouvrier sont présentées comme des évidences. Au fil de leur passage au gouvernement, le Parti socialiste et le Parti communiste ont annihilé le peu qui restait de la conscience de classe qu'ils avaient contribué à développer il y a des décennies. Aujourd'hui encore, le Parti socialiste au pouvoir désoriente les travailleurs. Lorsqu'un Manuel Valls crache ses saletés sur les Roms, c'est un calcul, pas seulement un calcul électoral, mais un calcul visant à diviser les travailleurs, à détourner leur colère vers de plus pauvres qu'eux, pour éviter qu'elle n'éclate contre les riches et leur personnel politique. L'attraction du vote Front National au sein de la classe ouvrière, quelles qu'en soient les raisons ou les prétextes invoqués, nous donne aussi la mesure du recul de la conscience de classe. Alors, oui, il faut reconstruire un parti qui oppose à tous les partis dévoués au système capitaliste une politique propre aux travailleurs, une politique qui ait pour objectif de préserver les intérêts de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, une politique de classe qui oppose la classe ouvrière à son ennemi social, la classe capitaliste qui vit de l'exploitation. Un parti qui prenne systématiquement le contre-pied des idées et du langage patronal. Un parti qui aide les travailleurs à se battre pour leurs propres intérêts en dénonçant le capitalisme, la propriété bourgeoise, les lois du profit. Défendre les idées communistes, défendre cette conviction profonde que les travailleurs qui font déjà tout tourner dans cette économie sont aussi capables de la diriger ne consiste pas seulement à travailler pour la révolution future, c'est aussi travailler pour les luttes petites et grandes qu'on a à mener au jour le jour. Alors, il faut continuer à défendre nos idées comme nous le faisons en permanence. Dans l'année qui vient, les élections municipales puis les européennes nous donneront la possibilité de défendre la politique que nous venons d'évoquer avec Jean-Pierre sur le terrain électoral et nous devons nous saisir de ces occasions. Les municipales constituent la première possibilité électorale de rejeter la politique de Hollande et du Parti socialiste. Ces élections sont locales, mais la signification qu'on donnera au vote aura un caractère national. Et c'est dans l'ordre des choses, car les problèmes qui se posent à la population en général et aux classes exploitées en particulier ne sont pas des problèmes locaux ou municipaux. Mais il ne suffira pas de rejeter la politique de Hollande. Mis à part les politiciens de la majorité, et encore, tous les partis politiques appelleront à un vote sanction contre Hollande et le Parti socialiste. Mais tout le passé électoral, toute l'histoire récente des alternances à la présidence ou à la direction du gouvernement montre que rejeter la politique de l'équipe qui est au pouvoir en votant pour une autre équipe qui se dit dans l'opposition ne fait que perpétuer la même politique. Les acteurs changent, mais la pièce est la même. Quant à ceux dans les milieux populaires qui, par désespoir, envisagent de voter pour le Front national, au motif que cela, on ne les a pas encore essayés, ou que ce vote donnera un coup de pied dans la fourmilière, ils se trompent lourdement. Le Front national, quel que soit son langage démagogique d'aujourd'hui, représente une politique pour la bourgeoisie, la pire du point de vue de la classe ouvrière. Sa perspective, c'est un régime autoritaire, dur avec les travailleurs, interdisant ou limitant les activités des organisations ouvrières comme des associations qui échappent à sa mainmise. Pour reprendre une expression utilisée dans la foulée de mai 68, à la place des politiciens pour qui la démocratie consiste en un « cause toujours », le Front national représente la politique du « ferme ta gueule ». Que des petits possédants, des petits bourgeois réactionnaires envisagent de voter pour le Front national et dans l'ordre des choses. D'ailleurs, pour la frange de l'électorat qui se détache de l'UMP pour aller vers le Front national, il n'y a pas beaucoup de changements. Mais seuls les plus inconscients ou les plus désorientés des travailleurs peuvent envisager de voter pour le Front national parce que cela revient à se tirer une balle dans le pied. Ceux-là peuvent se donner bonne conscience en se disant que c'est juste pour un coup et juste pour sanctionner les partis de l'alternance gouvernementale. Mais de toute façon, c'est un mauvais calcul. Les votes venant des pauvres se mélangeront dans l'urne avec ceux qui viennent des réactionnaires les plus infâmes, des petits patrons anti-ouvriers, des nostalgiques des colonies ou de l'OAS, de tous ceux qui, demain, si la crise pousse la bourgeoisie vers l'option fasciste, constitueront les cadres d'une version française d'Aube Dorée, ce parti néo-nazi grec. Et les votes en faveur du Front national seront certes considérés comme opposés au gouvernement, mais ils seront aussi interprétés comme émanant de gens qui critiquent le gouvernement parce qu'il n'est pas assez réactionnaire, parce qu'il n'est pas assez anti-ouvrier. Alors, nous combattrons les idées du Front national comme toutes les idées bourgeoises, du point de vue des intérêts de la classe ouvrière. Et nous continuerons de dénoncer le Parti socialiste, et à infiniment plus forte raison l'UMP, même s'ils vont tous se présenter comme des remparts contre le Front national. Vous avez vu que Valls fait un tour de France des régions sinistrées par le chômage, notamment à cause de la politique des socialistes, en prétendant qu'il y va pour combattre le Front national. Eh bien, si nous n'avons que celui-là comme sauveur, cela finira comme cela a fini dans bien des pays où l'extrême droite est arrivée au pouvoir. Alors, bien sûr, nous refuserons toute idée de front républicain. Et l'attitude du Parti socialiste et du Parti communiste, qui systématiquement font voter pour l'UMP contre l'UFN, est bien le signe que ces gens-là ont sur les idées fondamentales la même option. La quasi-totalité des courants politiques qui seront présents dans ces élections ont en commun de se situer sur le terrain de la préservation de la société actuelle et du capitalisme. Explicitement ou implicitement, il considère que cette société d'exploitation est la seule possible et que la dictature de la grande bourgeoisie sur l'économie et sur la société constitue le cadre indépassable de la vie politique. Eh bien, pour représenter une opposition ouvrière, Lutte ouvrière présentera des listes dans un certain nombre de villes, comme elle présentera des listes dans toutes les circonscriptions des élections européennes. Nous nous présenterons pour exprimer les intérêts du camp des travailleurs, non seulement contre les serviteurs politiques de la bourgeoisie de différentes obédiences, mais aussi et surtout contre la bourgeoisie elle-même et contre l'organisation capitaliste de la société. Nous voulons faire entendre la voix de ce courant du mouvement ouvrier qui considère que les travailleurs n'ont pas à choisir entre tous ceux qui ont pour perspective de perpétuer l'esclavage salarial, mais qu'il faut que dans ces élections, comme dans toute la vie politique, les exploités défendent leurs intérêts pour l'immédiat comme pour l'avenir de la société. Le courant communiste est né de la révolte d'hommes et de femmes qui n'acceptaient pas les inégalités et l'absurdité de ce système. Il a toujours trouvé dans la jeunesse ouvrière et intellectuelle des relais. La jeunesse actuelle doit prendre part à ce combat. Aux jeunes qui sont tournés vers l'avenir, aux jeunes qui sont frappés par l'inhumanité de notre société et révoltés par l'oppression, mais aussi aux jeunes qui s'enthousiasme des possibilités de la société, à tous ceux qui s'émerveillent des prouesses de la médecine, à tous les intellectuels attirés par les possibilités immenses des sciences, nous disons qu'il y a une autre tâche à laquelle il faut s'atteler, une tâche enthousiasmante, qui est de libérer l'ensemble de la société du carcan qui l'enserre et qui l'empêche d'aller de l'avant quand il ne menace pas de la faire sombrer. Ce carcan, c'est le capitalisme. Aux jeunes qui sont nés et ont grandi en communiquant et en échangeant avec les quatre coins du monde, à ces jeunes qui ne pourraient pas envisager leur vie sans la liberté de circuler à l'échelle de la planète, nous disons qu'il ne faut pas accepter le renforcement du nationalisme, des frontières, du racisme et de la xénophobie. La seule façon d'aller de l'avant, la seule façon de combattre ces idées réactionnaires, de combattre les petites oppressions comme les grandes, c'est de libérer l'humanité de la nécessité, de permettre aux exploités de bénéficier des bienfaits créés par le travail commun, non seulement pour assurer les besoins élémentaires de chacun, mais pour pouvoir créer une société juste et harmonieuse. C'est de se battre pour la révolution ouvrière, c'est de lier leur sort à la classe exploitée qui porte en elle la possibilité de réorganiser la société sur des bases collectives et d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. Et plus généralement, j'en appelle à tous ceux qui sont restés jeunes dans leur tête et dont la capacité de révolte est intacte, malgré les déceptions et les trahisons. J'en appelle à tous ceux qui veulent participer à ce combat pour créer un parti communiste révolutionnaire. Nous ne serons jamais trop dans ce combat, et plus particulièrement à l'occasion des prochaines échéances électorales, nous aurons besoin de tous. Ce n'est évidemment pas que ces deux élections changeront la situation et le rapport de force entre la classe ouvrière et la grande bourgeoisie. Pour ce qui est des municipales, quoi que puissent raconter les notables locaux pour se faire élire, la couleur politique du conseil municipal ne changera en rien le sort des classes populaires d'une ville. Même le peu de pouvoir dont disposent les municipalités se restreint sans cesse au profit de l'État. Et quant à l'État, il mène la politique du grand capital que l'on connaît, une politique sans pitié pour les classes populaires, et qui le sera de plus en plus avec la prolongation de la crise. Personne ne peut non plus se faire d'illusions sur ce que peut changer la composition politique du contingent de députés français au Parlement européen. D'autant moins que le Parlement européen n'a pas plus de pouvoir que le Parlement français, c'est peu dire. Les décisions sont prises dans le petit cénacle des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne, directement soumis à la grande bourgeoisie. Les élections terminées, reprendra le ronronnement habituel de la vie politique et de la démocratie bourgeoise et des alternances politiques qui ne changent rien à rien. Alors, tout l'intérêt politique de la participation des communistes révolutionnaires à ces élections est de faire entendre le camp des travailleurs, de défendre et de faire entendre une politique et une perspective en rupture, non pas avec tel ou tel regroupement politique au sein de la bourgeoisie, au service, pardon, de la bourgeoisie, mais avec la bourgeoisie elle-même, avec le système capitaliste. C'est peu, mais c'est aussi beaucoup. Car c'est à travers des combats politiques, y compris à l'occasion d'élections, que peut émerger et se forger un parti politique qui représente les intérêts des travailleurs, un véritable parti communiste. Bien sûr, un véritable parti, avec ce que cela implique de présence dans le pays et de représentativité aux yeux des travailleurs, ne peut vraiment surgir que dans de grandes luttes de la classe ouvrière. Car seule une reprise de confiance des travailleurs en eux-mêmes, une reprise de la combativité, peut faire surgir dans les entreprises, dans les quartiers populaires, ces milliers de militants prêts à se consacrer au combat de leur classe sociale. C'est pourquoi il est important, même et surtout dans des périodes de recul comme aujourd'hui, de faire vivre les idées de la lutte de classe, de la lutte de classe de la classe ouvrière. C'est pourquoi il est important de renouer avec le passé du mouvement ouvrier et avec ses expériences. C'est pourquoi il est important de former des femmes et des hommes, une nouvelle génération, à ces idées. Alors, saisissons-nous au mieux des possibilités qui nous sont offertes par ces deux élections. Saisissons-nous-en pour propager les idées communistes. Gagnons à ces idées de nouveaux militants, des femmes et des hommes qui, face à la crise de la société capitaliste, cherchent leur voix et ont envie d'agir. La raison d'être d'un parti révolutionnaire est de faire la révolution. Mais la révolution ne dépend pas que de la combativité des travailleurs. Elle dépend aussi de ce qu'ils ont dans la tête. L'état d'esprit des travailleurs peut changer vite sous le coup des événements. Mais faut-il que les idées révolutionnaires existent ? Il s'agit donc de reprendre le combat mené par des générations de militants pour doter la classe ouvrière d'une conscience de classe, pour l'armer politiquement. Cette prise de conscience commence aujourd'hui par la conscience toute simple d'avoir à rejeter les idées de la bourgeoisie. Elle passe par la conscience d'avoir tout simplement à dire non à la politique anti-ouvrière. Oui, elle commence par le simple fait de prendre la parole et de dénoncer. C'est un objectif qui peut sembler bien minime par rapport à notre but de reconstruire un parti qui seul pourrait permettre aux larges masses de renouer avec la conscience de classe. Mais les grands et les petits combats se font d'abord dans les têtes, dans la conscience que les travailleurs ont de leurs intérêts, de leurs capacités et de leur rôle dans la société. Et sur ce terrain-là, nous pouvons être utiles et préparer l'avenir. Il y a bien des choses que nous ne pouvons pas faire et pas empêcher. Mais il y en a au moins une qui dépend de nous, c'est de dire ce que nous pensons, c'est affirmer notre politique communiste révolutionnaire, faire vivre nos idées parmi les travailleurs. Alors, bon courage, camarades, pour poursuivre ce combat.